Vous passez votre enfance dans un cocon que vous connaissez par cœur. Votre famille, vos amis, votre village, tout le monde connaît tout le monde. Le bac en poche, c'est ensuite le grand saut. Partir faire ses études, rencontrer des personnes qui ne nous ressemblent pas, se sentir si différent au point de se décourager parfois. Alors on développe des stratégies pour légitimer sa présence et on s'autorise à se dire que oui, cette place, elle peut être à nous. Comme celle de Pauline Bouche, notre invitée d'aujourd'hui. Tout l'été sur France Inter, je vous invite à venir découvrir le parcours de ces combattants. Obligés de se battre pour arriver là où ils sont aujourd'hui, là où on ne les attendait pas. Redoublant d'efforts, au prix parfois de sacrifices. Je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère qui ressemblent à tant de millions d'autres. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem. Parcours de combattant.
Bonjour Pauline Bouche.
Bonjour.
Ravie que vous soyez à mes côtés ce samedi pour décortiquer ensemble votre parcours et apprendre à vous connaître. Vous avez 25 ans.
Oui.
Vous êtes diplômée de Sciences Po Paris. Vous êtes aujourd'hui, alors attention, juriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit économique à Neuilly-sur-Seine. Vous avez également réussi l'année dernière le barreau. Du premier coup, mais vous avez préféré poursuivre en thèse votre sujet de recherche de master, à savoir intelligence artificielle et relations collectives de travail. Quel programme ? Pourquoi avoir choisi de faire du droit ?
Vaste question. je pense que j'ai choisi avant tout de faire du droit parce que je ne voulais renoncer à rien. C'est-à-dire que le droit est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et puis, je savais pas trop quoi faire, vers quoi m'orienter au moment où je sortais de mon baccalauréat. Donc, le droit, enfin, mon parcours vers le droit s'est dessiné petit à petit à Sciences Po. Et j'en suis aujourd'hui tout à fait ravie.
Alors, vous dites parce que vous ne vouliez renoncer à rien, parce que vous ne vouliez pas choisir, et parce que c'est aussi l'outil, au final, au service de tous.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Je voulais ne renoncer à rien. C'est souvent le cas des étudiants de Sciences Po, puisqu'en fait, j'ai débuté mon parcours en étant particulièrement intéressée par les langues. J'adorais l'allemand, j'adorais l'anglais, j'avais envie de voyager à l'étranger, mais j'avais envie de tout faire en même temps. Et c'est ce que permet le droit, puisque en fait, on peut faire du droit économique, on peut faire du droit du travail, comme je vais le faire dans ma thèse. On peut aussi avoir toute une dimension chiffrée, comme je vais aussi avoir dans ma thèse, avoir plein de notions de sociologie, et c'est extrêmement riche.
Et on reviendra plus tard justement sur ces ambitions et ces prochains axes professionnels que vous allez développer. Mais avant cela, retournons un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien, dans l'horloge de votre toute jeune vie. Vous avez grandi à Folquemont, une toute petite ville de 5000 habitants située à une demi-heure de Metz, en Moselle, où votre maman habite toujours. Ça ressemble à quoi de grandir dans ce petit bout de la France tout en haut à droite, là, sur la carte de l'Hexagone?
Je pense que c'est très heureux. C'est très heureux parce qu'on est finalement assez protégé de tout.
C'est le cocon que j'évoquais tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Le monde est petit. On risque peu de choses. On côtoie les mêmes personnes de l'école primaire jusqu'au lycée. J'ai fait mes 10 premières années d'études, je pense, dans 500 mètres carrés, peut-être 1 km carré grand maximum. Donc c'est très rassurant, c'est aussi très enrichissant. Parce que on ne vous impose pas grand-chose, on vous laisse faire tout ce que vous avez plus ou moins envie de faire.
Parce qu'on se sait en sécurité et parce que les parents vous savent en sécurité.
Oui, tout à fait. Et puis puisque vous n'avez pas le coût de la vie, en fait, que vous auriez dans une grande ville qui vous empêche d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que même si vous avez peu de moyens, vous avez toujours la possibilité, je sais pas, de connaître le paysan du coin qui va vous permettre d'aller faire de l'équitation, comme c'était dans mon cas, ou une personne qui vous donne des opportunités que vous n'auriez peut-être pas dans une grande ville.
Moi aussi, je viens d'une petite ville, comme vous, alors un tout petit peu plus grande que la vôtre. Non, justement, en plein centre de la France, enfin, en Sologne précisément, c'est Romorantin, une ville de 17 000 habitants, c'est là que j'ai grandi. Et moi, je voulais à tout prix partir, parce que j'étouffais, et parce que justement, ce que vous disiez tout à l'heure, que c'était petit, mais pour moi, c'était beaucoup trop petit et que j'avais vraiment besoin de voir grand et que je voulais vivre en grand et que pour moi tout était vraiment tout minuscule à Romorantin. Vous l'avez pas du tout vécu comme ça en fait. Pour vous, ce côté petit, ça vous a rassuré. À quel moment vous avez eu envie justement de voir grand, de vouloir voir grand?
Je pense que ça s'est fait très progressivement parce que effectivement j'étais très bien là où j'étais et j'avais peur. J'avais peur de la grande ville. C'est vous dire, on faisait nos courses, on fait toujours d'ailleurs nos courses en Allemagne. Donc moi, les plus grandes villes que j'avais vues jusqu'à mes 18 ans, c'était Metz et Sarrebruck. Et j'avais pas du tout envie de partir parce que j'avais pas besoin de partir. Tout ce dont j'avais besoin et tout ce dont j'avais envie, je pouvais le réaliser directement à l'endroit où j'étais. Donc pourquoi partir? Pourquoi aller vers... Enfin, pourquoi se forcer à vivre dans un petit appartement, faire de très gros sacrifices alors qu'on peut avoir tout ce dont on a envie à l'endroit dans lequel on est? Et puis avoir sa famille autour de soi, c'est important aussi.
Folquemont, donc la petite ville où vous avez grandi, a été jusqu'à la première moitié du XXe siècle un important centre industriel grâce à sa mine de charbon, avant de décliner depuis la fin des années 70. Le cabinet d'avocat dans lequel vous travaillez aujourd'hui se trouve à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, département le plus riche de France. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce décalage?
Oh, un regard bienveillant. Parce que je sais d'où je viens et c'est pas parce que j'ai quitté l'endroit duquel je viens. Donc mon grand-père était mineur, mon autre grand-père était paysan et électricien. Donc j'ai les pieds sur terre et je pense que je serais jamais arrivée là où je suis, donc dans le cabinet d'avocat dans lequel je suis maintenant, si je n'avais pas eu autant les pieds sur terre.
Vous êtes issu d'une fratrie de trois, vous avez un frère jumeau et votre petite sœur est plus petite que vous de 2 ans seulement. Vos parents divorcent, votre mère tombe malade et est souvent hospitalisée quand vous étiez encore enfant. La situation financière de votre papa se dégrade aussi, il perd son travail de commercial et devient vendeur pendant que vous êtes toute jeune. Tout ça donc à ce moment-là, est-ce que vous compreniez à cette époque-là ce qui se jouait et comment vous vous êtes construite avec ça?
J'ai donc un frère jumeau. Je suis pas en pratique l'aîné de la famille, mais j'ai un peu endossé ce rôle, je crois, malgré moi. On l'a endossé à deux, finalement. C'est une chance. Voilà, d'avoir des frères et sœurs aussi. Disons que la situation a évolué extrêmement vite et on comprend, même en étant très jeune, je devais avoir 12 ans, 12, 13 ans à l'époque, qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être bon dans ses études parce qu'il y aura en fait aucun filet pour se raccrocher à quoi que ce soit. Il n'y aura pas de filet financier, il n'y aura pas de filet au niveau sécuritaire, professionnel. Donc on prend très très vite conscience qu'il faut que les choses avancent par nous-mêmes. J'ai quand même eu une enfance heureuse. Les choses n'ont jamais été, ont pas été faciles à gérer puisqu'on ne rentre pas dans un schéma familial habituel, traditionnel. Donc on ne se sent pas forcément toujours intégré. Et en fait, il y a un tel décalage, si vous voulez, entre la situation que vous vivez à la maison et par exemple la situation que vous vivez quand vous avez 12-13 ans, que vous allez chez vos copains qui ont qu'en tête de jouer, qu'on sent un peu en retrait.
On le vit comment à 12-13 ans? Est-ce qu'on est en colère ou est-ce qu'on est dans l'incompréhension?
Alors moi, ça a été la colère, c'était très clair. Voilà. La colère contre mes parents qui n'ont pas su... Je pense que j'ai été très très dure avec eux. J'estimais qu'ils n'avaient pas assez anticipé la situation, qui en fait est complètement...
N'était pas anticipable.
Voilà, tout à fait. Maintenant, avec du recul, j'ai conscience que c'était pas anticipable, mais on n'a pas ce recul-là quand on a 12-13 ans. Mais après, là où mes parents ont bien géré les choses, c'est qu'ils ont aussi prévenu nos enseignants de l'époque.
C'est courageux, ça.
Oui, je pense qu'on a eu beaucoup de bienveillance de la part du monde enseignant, et que c'est ce qui a beaucoup joué dans notre développement à nous. Et puis, ils ont su appuyer sur d'autres boutons et créer les soupapes de sécurité dont on avait besoin au bon moment.
C'est le bruit qui représente peut-être le plus votre enfance, Pauline Bouche. Vous êtes une passionnée, une accro de chevaux. Vous avez pratiqué l'équitation dès l'âge de 9 ans jusqu'à votre baccalauréat. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'équitation, dans votre vie d'enfant?
Une soupape de sécurité.
La fameuse qui n'existait pas à la maison.
Exactement. Un monde parallèle dans lequel on ne nous demande pas ce que font nos parents. On ne nous demande pas quelles sont nos notes à l'école, on n'attend rien de nous. On est juste là pour profiter, ça dure quelques heures par semaine. Au mieux, on fait quelques concours, on s'en sort pas trop mal, et puis on se crée tout un réseau de personnes bienveillantes et juste vraiment passionnées par une chose. Et alors, si vous connaissez des passionnés de chevaux, vous savez que ils savent de quoi ils parlent, et quand ils sont passionnés, c'est très clair, il n'y a aucune question qui se pose.
Et paradoxalement, on dit de l'équitation que c'est un sport de riches.
Tout dépend d'où vous le pratiquez. C'est encore un des avantages de la campagne.
Si vous lobbyiste voulez... rural en chef.
Ah ben, ne vous en faites pas. Hein. Je sais d'où je viens, je vous l'ai dit.
Avant de poursuivre avec vous pour comprendre votre chemin, notamment jusqu'à Sciences Po Paris, empruntons le temps de quelques minutes un autre chemin, celui de Noël Gallagher.
When the morning comes, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. You chose to drift away, but look at you.
C'est « We are on our way now » de Noël Gallagher.
France Inter, parcours de combattant, Nassira El-Mohadem.
Nous sommes toujours avec vous, Pauline Bouche. J'en profite avant d'aller plus loin dans votre parcours pour remercier Valentine Chedebois pour la programmation musicale, Mao de Butler qui m'a aidé à préparer cette émission, Fanny Cohen-Moreau qui la réalise et à la technique Adèle Caglar. Dans votre famille, pour vos parents, Pauline Bouche, l'école tenait quelle place ?
Une place importante quand même. Ça a toujours été très important pour nos parents qu'on ait de bonnes notes. Sans forcément être tête de classe. J'entends pas non plus. Enfin, ils nous mettaient pas une pression incroyable, mais je crois qu'on se mettait beaucoup la pression tout seul, tous les trois. On avait clairement pas besoin.
Vous aviez très bien compris le message,
voilà.
C'est ça ?
Ouais, ouais. Non, mais oui.
Et pour vous, dans vos souvenirs de l'enfant que vous étiez, de l'ado que vous étiez, l'école, c'était quoi à vos yeux ?
Alors j'étais une ado assez psychorigide quand même. donc les bonnes notes, c'était absolument vital. Voilà, je pense que c'était peut-être démesuré, maintenant avec du recul. Mais l'école, c'était aussi finalement un vecteur d'émancipation, mais vraiment. C'était l'endroit où je pouvais, comme pour l'équitation, m'échapper de mon quotidien. Voir des gens qui avaient une vie normale, entre guillemets, et évoluer à leur rythme. Alors même si je me sentais en décalage, mais je savais que si je savais l'utiliser correctement, je pourrais faire ce que je voulais derrière.
Pourtant, au collège et au lycée, mais surtout au collège, vous n'imaginiez même pas faire de longues études. Pourquoi ?
Parce que déjà, j'étais passionnée d'équitation. Voilà.
Et vous vouliez en faire votre métier ?
Je souhaitais en faire mon métier. Jusqu'à la fin du collège, c'était assez certain. Je voulais rentrer en lycée professionnel. J'avais été aux portes ouvertes avec mon père, mes parents. Mon père surtout était pas forcément très heureux de cette situation parce que pour eux, la sécurité, c'était plutôt de faire un bac général et puis de poursuivre ses études. Mais je me voyais pas du tout là-dedans parce que j'étais dans quelque chose de vraiment très pratique et je préférais être dehors du matin au soir plutôt que de m'enfermer derrière un écran d'ordinateur à écouter des gens qui parlent. C'était pas forcément ce qui me passionnait.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu plusieurs étapes. Je me suis prise de passion pour l'allemand. J'aurais pu me prendre de passion pour tout à fait autre chose, mais là, c'était l'allemand. Puisqu'on enseignait l'allemand et j'ai appris l'anglais par la suite et j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait de pouvoir justement découvrir une nouvelle culture, de pouvoir parler une autre langue.
Et puis c'est votre environnement proche, hein. On est à quoi, une demi-heure de la frontière, c'est ça?
Ah ben on est là où on fait les courses le week-end, voilà. Oui, donc une demi-heure de la frontière, oui, exactement. Et j'étais absolument ravie, donc je me suis lancée là-dedans complètement et j'ai une professeure qui m'a fait passer différents examens, donc vous passez le A1, le A2, le B1, le B2. À l'issue de mon oral qui s'était très bien passé, on a eu une très grosse conversation, dont je me rappelle encore aujourd'hui, où elle me disait que ça serait bien que je pense à continuer mes études. C'était fin de troisième, le moment des choix arrivait pour le lycée. Je me suis vraiment posé la question, parce que je sentais bien, encore une fois, que pareil, j'avais un décalage avec les personnes que j'avais pu rencontrer au lycée professionnel, donc pour devenir éleveuse de chevaux ou cavalière professionnelle, ou peu importe. J'étais aussi en décalage avec ce monde-là, donc je me sentais pas forcément complètement à ma place, elle a ouvert la brèche.
Et cette professeure, elle s'appelle Evelyne Steinmetz. Ouais. Elle était donc votre professeure d'allemand au collège. Et elle ne vous a pas oublié, elle vous a même laissé un message vocal. Écoutez.
Hallo Pauline, que je suis heureuse d'avoir de tes nouvelles et de savoir que tu as si brillamment réussi. Mais je n'en doutais pas. Mais alors absolument pas. Je te vois encore dans ma salle d'allemand à l'avant-dernière place à droite dans le fer à cheval. Toujours sérieuse, toujours attentive. Je te vois encore timide, réservée. Pouf, il fallait vraiment te chercher. La participation orale n'était pas ton point fort. Et pourtant, tu étais dans le groupe Ma Valeur Sûre. Je savais que tu irais loin. Ma chère Pauline, je suis si fière de toi. Tu t'es lancée et le jeu en valait la chandelle. Quel parcours! Bravo! Mille fois bravo! Je suis si émue aussi de savoir que l'amitié franco-allemande te tient toujours à cœur. Et que tu pratiques toujours la langue de Goethe. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne continuation. Poursuis ta carrière, avec conviction, avec enthousiasme. Pauline, avec toute mon affection et toute mon admiration, ta prof d'allemand de 4e et 3e euro, Evelyne Steinmetz.
Bon, nous avons toute l'alarme là. Et vous aussi, Pauline Busch, mais vous encore plus que nous, évidemment.
Oui, je suis désolée, je suis vraiment émue. Oui, parce que elle a joué un grand rôle et dans ma formation, un moment donc qui était particulièrement compliqué, et aussi donc pour moi, pour ma petite sœur qu'elle a eue en cours par la suite aussi, et dont elle a aussi influencé beaucoup l'avenir professionnel, et elle a ouvert des portes auxquelles en fait on n'aurait jamais pensé, et parfois on n'a pas besoin de grand chose pour avoir un déclic, et elle a su trouver les mots au bon moment, que ce soit moi, que ce soit ma petite sœur, probablement beaucoup d'autres étudiants, et je en serai toujours reconnaissante.
C'était ça. Si dur que ça pour vous, l'ado que vous étiez, de prendre la parole à l'oral?
Alors c'est assez contradictoire parce qu'en plus là je travaille en cabinet d'avocat,
oui.
Donc on est... oui, c'était plus simple de ne pas se faire remarquer. Parce que aussi, quand vous êtes surtout, je pense, au primaire, au collège, au lycée, faut pas sortir du rang. Donc si vous êtes passionné, faut surtout pas le dire trop fort. Si vous avez des bonnes notes, il faut surtout pas être une tête de classe qui se prononce trop ou qui se montre trop. Faut juste rentrer dans les codes.
Puis vous intégrez le lycée à Saint-Avold, dans une ville plus grande, du coup. Et là, vous vous épanouissez, surtout grâce à l'allemand. Donc, vous en faites 6 heures par semaine, plus l'histoire géographie en allemand. Vous vous dites que cette professeure, Evelyne Steinmetz, elle a eu raison d'insister avec vous?
Elle a totalement eu raison. Et puis, alors, je regrette de ne pas avoir poursuivi ensuite, parce que j'ai fait un baccalauréat scientifique. Mais ma bouffée d'oxygène, c'était l'allemand. C'était l'allemand et j'ai détesté les matières scientifiques. Bon, bah, c'est pas grave. Heureusement, justement, j'avais cette soupape-là et j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Donc, elle m'a poussée vers un cursus qui s'appelle Abibac, qui permet de passer le baccalauréat français et le baccalauréat allemand en même temps, et de tomber sur une classe qui me ressemblait énormément, et c'était quelque chose qui m'était jamais arrivé d'avoir justement des gens aussi passionnés par ce qu'ils faisaient avec moi, autour de moi, du matin au soir, et juste qu'ils l'assument de bout en bout.
Vous avez parlé de la PIBAC, arrivent donc les moments cruciaux autour de l'orientation. Pour vous, cette période, elle a été synonyme de quoi ?
De torture. De torture, parce que choisir, c'est renoncer. Et j'aime tout faire, et je n'aime pas forcément choisir. Et l'année avait été très chargée, parce qu'au début de l'année, la jument que j'entraînais est décédée très soudainement. Donc le monde de l'équitation s'est fermé de manière assez brutale. Donc j'ai eu plus de soupape pendant mon année de terminale.
Qui est une année difficile puisqu'il y a le bac.
D'autant que je préparais deux baccalauréats.
Et oui, deux baccalauréats.
Voilà, le parcours vers les études supérieures s'est fait petit à petit. J'ai d'abord sélectionné quelques facs de droit puisque je sentais que c'était finalement ce qui me permettait de renoncer au moins de choses possibles. Et ça me permettait de garder en fait le franco-allemand. Puisqu'il y a différents cursus à l'université de Strasbourg, il y a quelques universités à Paris aussi qui permettent de garder le franco-allemand. Et puis Sciences Po est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe.
Voilà, c'est à ce moment-là que vous découvrez l'existence de Sciences Po, pas avant.
Non.
Avant de candidater, quand vous découvrez donc l'existence de cette filière, qu'est-ce que vous vous dites précisément ?
Que je ne suis pas légitime. J'étais déjà pas légitime à rentrer dans un lycée général, je n'étais encore moins légitime à rentrer à Sciences Po ou à venir à Paris faire des études. De toute façon, puisque je n'avais pas fait Henri IV, et donc que ça n'était pas en venant de mon petit lycée de province que je pouvais prétendre à rentrer à la Sorbonne ou à faire de grandes études.
Ça, vous le dites dans votre tête, c'est très clair.
C'est très clair, très clair, voilà. Très très peu de doutes possibles, je sais que mon atout à moi, c'est le franco-allemand. Et ça le reste, et c'est l'atout sur lequel je peux compter parce que j'ai assez confiance en moi, justement grâce à cette professeure d'allemand, et aussi parce que j'ai fait Abibac.
Et sur votre incapacité à vous considérer légitime pour candidater à ces filières dites élitistes, vous vous en voulez à vous-même ou vous en voulez au système scolaire ?
Je pense que j'étais de toute façon pas assez mature à ce moment-là, et j'avais pas le recul nécessaire pour m'en vouloir à moi-même. Je sais pas si j'en veux au système scolaire. Là, par contre, je dirais pas que j'en veux à quelqu'un, en fait, en particulier. Par contre, je trouve que les attentes qu'on nous pose au moment où on doit choisir nos cursus universitaires sont complètement en décalage avec le monde professionnel. C'est-à-dire que si j'avais eu peut-être le courage, ou si on m'avait présenté un avocat à l'époque, qu'on m'avait permis de parler avec cette personne, de ce que c'était que la vie en cabinet tous les jours, ou un juriste, ou un boulanger, ou une éleveuse d'équitation. En fait, c'est ce qui était le plus concret pour moi, parce que j'avais vu ma monitrice évoluer au jour le jour. Je pense que le choix aurait été moins douloureux et beaucoup plus facile. Et j'ai l'impression que c'est un malaise qui se ressent de manière générale pour beaucoup d'étudiants.
Vous êtes reçu à Sciences Po et là vous faites la connaissance de nouveaux mondes, bien éloignés de tout ce que vous aviez connu dans votre petite ville de Moselle. Ce sera excitant et intense aussi, nous le verrons, souvent aussi difficile.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème,
je ne sais pas s'il est nécessaire de le présenter encore, c'était La Bohème de Charles Aznavour.
France Inter, parcours de combattant, Nassira El Moadem.
Ah là là, la puissance des mots, des images, de la mélodie, oui. Ça marche à tous les coups, à tous les coups. Et c'est vous qui l'avez choisi, cette chanson, Pauline Bouche. Jusqu'à présent, mes invités avaient choisi des titres plus contemporains, du rap souvent. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson ?
L'insouciance. Je pense qu'elle représente profondément d'ailleurs l'insouciance que devrait avoir tout jeune de 20 ans qui commence ses études et qui commence à quitter le cocon familial dans lequel il vivait jusqu'ici, un peu cette période d'entre-deux où tout ce qu'on peut faire n'a pas vraiment d'incidence sur la carrière future, mais où on se construit aussi énormément, soit par des parcours à l'étranger, soit par des rencontres qu'on fait, ou des erreurs de parcours qui seront pardonnables de toute façon parce que c'est le début de la vie professionnelle.
Et là, démarre votre nouvelle vie. Vous passez le concours pour entrer à Sciences Po en 2013 et votre passion pour l'Allemagne vous suit jusque-là. Et alors, vous êtes persuadé que lors de votre oral, on va vous poser la question traditionnelle de quelle est votre personnalité préférée et que la réponse devra être Angela Merkel. Et bah pas du tout. Vous répondez pas ça. Vous répondez pas Angela Merkel.
Non. Et non, donc je ne réponds pas ça, je réponds par le nom d'une cavalière d'équitation. Et je sais que c'est à ce moment-là que mon oral bascule, puisque je sais que de toute façon les questions qu'on m'a posées avant étaient moyennes, donc rien ne me faisait sortir, si vous voulez,
du lot.
Voilà, du lot. Mais je sens, je sais que de toute façon quand je me mets à parler d'équitation, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai le regard qui pétille, je suis passionnée, ça ne fait aucun doute, et je vois dans les yeux de mes interlocuteurs, donc il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient présentes, que tout bascule.
Ja, liebe Freunde,
chers amis, la liesse est visible. Nous pouvons tous nous réjouir aujourd'hui. C'est un super résultat. Je voudrais d'abord remercier les électrices et les électeurs qui ont accordé une confiance si écrasante à la CDU. Et je peux leur promettre que nous nous montrerons responsables et attentifs. Merci beaucoup.
Voilà, nous sommes en 2013, précisément le moment où vous réussissez votre oral pour rentrer à Sciences Po Paris. Angela Merkel frôle la majorité absolue lors de cette troisième élection. Et aujourd'hui, elle s'apprête à passer la main après 16 ans de règne, on peut le dire. Angela Merkel, je pense, pour beaucoup de Français, c'est le symbole de la rigidité à l'allemande, de l'austérité aussi parfois. Vous qui baignez dans cet environnement franco-allemand, allemand aussi, et qui avez eu toutes ces années d'apprentissage et de la langue et de la culture, elle représente quoi pour vous, Angela Merkel ?
Une femme qui s'assume et qui n'a pas peur de montrer qui elle est, qui n'a pas peur d'assumer, oui, ses convictions. Au-delà de la symbolique et de son parcours qui est absolument incroyable, la campagne électorale qu'elle a menée en 2013 était vraiment importante parce que elle arrivait à un moment où elle a juste eu à dire pour que son parti, comme vous l'avez dit, frôle la majorité lors de l'élection. Ce que j'ai fait jusqu'ici a fonctionné, je vais continuer. Et c'est là-dessus, sur cet argument-là, que son parti a gagné et qu'elle a été ensuite désignée comme chancelière jusqu'à il y a très peu de temps. Et donc ça, je trouvais que c'était extrêmement important et très symbolique de juste pouvoir se dire, ben, si je suis moi-même et que j'assume mes convictions, que je défends mes idées et que je montre que j'ai une voix et que j'ose parler des sujets qui m'intéressent, ça fonctionnera.
Vous intégrez Sciences Po et naturellement, vous choisissez d'aller au campus franco-allemand à Nancy. Vous êtes à une heure et demie en train de chez vous et en même temps suffisamment éloigné pour vous envoler. Elle a quel goût, cette nouvelle vie pour vous ?
C'est grisant. C'est une vie sans trop de contraintes, avec un peu de contraintes financières, disons, mais c'est une liberté qui est grisante. C'est-à-dire qu'on ne nous impose plus rien, on choisit l'heure à laquelle on rentre, on n'a aucune justification à donner, et c'est un épanouissement intellectuel sans pareil, puisque je rencontre des étudiants qui viennent de partout dans le monde, pour la première fois aussi, puisque j'avais très très peu voyagé avant.
À part pour faire vos courses en Allemagne.
Voilà, tout à fait, ou en voyage scolaire. En Allemagne aussi. Donc, mis à part l'Allemagne, j'avais pas vu grand chose, mais j'étais très contente aussi de ça. Et donc, première fois, vraie confrontation avec le monde extérieur, mais le monde au sens très,
global.
Très large.
Ouais, ouais. Bien sûr. Il y a cette stimulation intellectuelle, et puis il y a aussi, dû à la rencontre avec tous ces gens et le fait que ce soit Sciences Po, il y a aussi le décalage social, le décalage économique. Comment il s'illustre au quotidien pour vous?
Le décalage social, déjà, je crois que c'est par les centres d'intérêt. Jusqu'ici, j'avais pas grand-chose en dehors de ma vie que les études et l'équitation. Je n'ai plus l'équitation, j'ai les études, mais sur le plan culturel, je ne suis pas du tout à la page, en fait. Les seuls musées que j'ai pu visiter pendant mes 18 premières années, c'était des musées, peut-être de Metz, auxquels je suis allée pour faire des études avec ma classe. J'ai pas d'intérêt particulier pour l'art, j'ai pas d'intérêt particulier pour la musique. C'est des mondes qui sont totalement inconnus pour moi. Et là, je me retrouve entourée de personnes qui ont sauté des classes, qui parlent déjà couramment 5 langues. Alors d'accord, moi je connais l'allemand, je connais un peu l'anglais. Mais il y a tout un rattrapage à faire parce que tout simplement, je ne comprends pas de quoi on parle. Au début, je me sens pas forcément très à l'aise. Puis finalement, on rattrape assez vite. Puis au niveau financier, c'est... je pense des responsabilités ou une conscience de ce qu'on fait qui sont exacerbées. On parlait tout à l'heure d'insouciance. C'est une insouciance que tout simplement je ne peux pas avoir. Qui est de me dire, partons en week-end à 18 ans, je sais pas, au bout de la France ou je ne sais où. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. De toute façon, je sais que ma petite sœur va passer le baccalauréat aussi. Donc il y a quelques allers-retours que ça implique parce qu'elle est toute seule à la maison. Et que je peux pas juste dire, je m'occupe de moi. C'est pas possible.
Moi, j'ai vécu un peu la même chose. Donc, moi, j'ai fait des études aussi. Donc, j'ai fait Sciences Po à Grenoble. Et puis ensuite, j'ai fait l'école supérieure de journalisme de Lille. Et c'est vrai que ce qui est difficile, au-delà, effectivement, du décalage économique et financier que moi aussi j'ai vécu, ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir expliquer les choses. C'est-à-dire qu'on s'empêche même d'en parler. D'abord parce qu'on en a honte. Et aussi parce qu'on pense que les gens ne vont pas comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vécu comme ça?
Je suis complètement d'accord. Et en fait, impossible d'en parler, ni avec les étudiants, ni avec... Alors, je me sentais presque parfois plus proche des professeurs qui me donnaient cours que de certains étudiants, tout simplement parce que nos mondes sont tellement à des années-lumière les uns des autres que c'était, mais impossible de parler ou de trouver un sujet de conversation qui aurait pu nous mener à discuter ou à avoir une vraie conversation.
Et du coup, avec la sensation aussi qu'on ne peut pas se montrer tel qu'on est. Mmh. Et que du coup, les étudiants qui doivent être les gens avec lesquels on partage le plus, puisque ce sont nos compagnons au quotidien, sont ceux peut-être qui nous connaissent le moins.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. En même temps, ça implique déjà d'avoir fait une certaine introspection, de se dire « je vais parler comme je suis ». Et moi, j'avais l'impression, alors peut-être à tort, que les sujets finalement qui étaient abordés par les autres étaient assez superficiels. La prochaine soirée qui allait se passer, comment est-ce qu'on avait passé notre week-end, quels étaient, je sais pas, les prochains matchs qu'on allait voir et ce qui est nécessaire aussi, mais qui est en décalage avec ce qu'on ressent profondément.
Et vous êtes une élève issue d'une convention ZEP. Alors, j'ai volontairement pas voulu commencer avec ça, puisque ce n'est pas une étiquette. Vous êtes rentrée à Sciences Po comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est la voie que vous avez utilisée pour rentrer à Sciences Po. Alors, on va juste expliquer très rapidement ce que ça veut dire. C'est donc une voie qui est réservée aux lycéens qui sont dans des lycées qui ont passé des conventions avec Sciences Po Paris. Des conventions liées au fait d'être en zone d'éducation prioritaire. Cette voie, elle existe depuis 2001. C'est Feu Richard Descoings, l'ancien directeur emblématique de Sciences Po Paris, qui l'avait mise en place dans un contexte à l'époque d'hostilité, voire de haine, assez fort. Écoutez.
Les voilà, ces jeunes. Leur père est chômeur, ouvrier ou employé. Et leurs profs ont décidé de les coacher. Objectif, rentrer à Sciences Po par la porte réservée aux plus défavorisés. On appelle ça une convention d'éducation prioritaire. Ici, à Sciences Po, où l'on a parfois dénoncé les intrus. Exemple de réaction.
Parmi les plus révoltantes, c'est les graffitis dans les toilettes de Sciences Po. Sciences Po, c'est pas la Courneuve, ou Sciences Po, c'est pas Aubervilliers. Ce que je trouve être du racisme social, dur. Et puis j'ai beaucoup reçu de lettres d'insultes sur le thème « Je fais entrer les Arabes à Sciences Po », ce qui est le racisme tout court.
Alors on l'écoute et on se dit que ce discours-là, quasiment plus personne à ce niveau de responsabilité ne le tient aujourd'hui. Moi, ça me surprend beaucoup. Certains pourraient même accuser Richard Descoings de séparatisme. C'est assez fou en fait. Hein.
Ah mais c'est totalement fou. Enfin, c'est si fou que ce ne sont que des étudiants. Enfin, les seules choses qui sont censées légitimer le parcours d'un étudiant sont ses notes. Le déterminisme social, en principe, ne devrait avoir aucune place dans les études supérieures. Et ça me révolte, un tel discours, ça me révolte d'autant plus que maintenant, quand on regarde les différentes procédures qui ont été mises en place, ça a été étendu à tellement d'autres institutions.
Les écoles de commerce, les écoles d'art, les écoles d'ingénieurs.
Comme s'il n'existait qu'une... Enfin, un tel discours, en tout cas, c'est comme s'il n'existait qu'une seule cohorte qui mériterait de faire des études supérieures.
Donc vous, vous êtes devenue étudiante à Sciences Po grâce à cette voie de la convention entre votre lycée d'origine et Sciences Po, puisque c'est un lycée d'éducation prioritaire. Une fois que vous avez mis les pieds dans ce monde-là, est-ce que ça a été stigmatisant pour vous de venir de cette convention-là ?
Je pense que je pourrais répondre de deux manières différentes à cette question, parce que je suis passée par deux parcours différents, c'est-à-dire que j'ai choisi volontairement d'aller à Nancy. Quand vous êtes admis par la procédure CEP, vous pouvez soit aller à Paris, soit aller à Nancy. Vous êtes enfin, si vous êtes accepté à Nancy, vous pouvez aussi aller à Nancy ou dans un autre campus. À Nancy, ça n'a pas été stigmatisant puisqu'on était une petite promotion de 250 étudiants grand maximum. On était 3 CEP, on a été très vite étiqueté puisque le monde est petit et que les gens parlent. Mais
ça veut dire quoi, très vite étiqueté? De quelle manière?
On sait qui est rentré par quelle procédure. Vous avez les personnes qui sont rentrées par la procédure internationale, on les repère tout de suite, ce sont des binationaux qui parlent plus souvent anglais que français ou allemand.
Mais du coup, ça implique quel type de réaction pour les autres étudiants qui ne viennent pas de cette convention ?
Beaucoup de curiosité, mais c'était bienveillant à Nancy. Je me suis jamais sentie attaquée. Et puis de toute façon, il y a un nivellement culturel qui est aussi fait automatiquement à Nancy, c'est-à-dire que très vite, comme c'est un petit campus de province, qu'on vienne de Paris, qu'on vienne de Berlin, qu'on vienne de Folquemont ou de Saint-Avold, on vit ensemble, en fait, du matin au soir. Donc, on finit tous par trouver des centres d'intérêt communs. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de stigmatisant. Je pense que la situation aurait été probablement tout autre si j'étais venue à Paris.
Combien de temps ça prend avant qu'on commence à peine à se sentir un peu, je dis bien un peu, légitime? Qu'on se dise, mais moi aussi, j'ai ma place ici à Sciences Po.
Un an et demi, au moins. J'ai vraiment bataillé pendant ma première année à me dire, en fait, je mérite d'être là où je suis et c'est pas parce que mes parents ne font pas tel ou tel métier ou parce que j'ai fait cette procédure qui est différente, que je ne mérite pas ma place ici. En fait, j'ai vu un bond dans mes notes et à partir du moment où j'ai commencé à retrouver un rythme au niveau scolaire et avoir de bonnes notes, les choses se sont enclenchées. Mais ça a mis un an et demi à peu près avant que je puisse assumer, recréer un cadre en fait.
Et aujourd'hui, le métier qui est le vôtre, c'est-à-dire celui de juriste, et puis vos autres métiers, puisque vous êtes aussi maintenant apprentie chercheuse, doctorante, est-ce que ça aussi aujourd'hui vous assumez pleinement et c'est ce qui permet aussi de pouvoir transmettre, notamment dans le cadre associatif?
Oui, oui, tout à fait. Et assumer ses envies et surtout suivre son instinct. On nous pousse beaucoup en France à faire nos études en 5 ans. Il faut faire les bonnes écoles, il faut surtout avoir les bons cabinets d'avocats qu'on inscrit sur son CV ou les bonnes entreprises qu'on inscrit sur son CV pour pouvoir potentiellement arriver à un poste qui pourrait nous intéresser. Je me suis beaucoup posé la question puisque je pourrais aussi rentrer à l'école d'avocat, mais là je vais poursuivre en thèse tout simplement parce que j'ai envie. Et je ne dois rien à personne puisque je travaille pour obtenir ce que j'ai.
Et parce que vous ne savez pas choisir, toujours.
Exactement. Mais je vais arrêter de m'excuser pour ne pas savoir choisir et je vais juste l'assumer, voilà.
Merci, Pauline Bouche, d'avoir accepté de parler de votre parcours et d'assumer si bien vos choix. On vous souhaite plein de succès dans votre recherche et puis de belles plaidoiries à venir, qui sait. Quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve samedi prochain, 14h, pour un nouveau portrait de combattant. C'était Les Souterrains de Cassidy.